Décryptualité, semaine 46. Salut Manu.
Salut Luc.
Bon, un tout petit sommaire cette semaine.
Et oui, c'était une petite semaine. Hein. Il faut croire que les journalistes, ils n'étaient pas trop au travail. En tout cas, ils n'ont pas beaucoup parlé de nos sujets.
Donc, il n'y a que deux articles qui ont monté et qui parlent de trucs qu'on a déjà évoqués.
Alors, deux sujets, hein, parce qu'il y a un article. En fait, il y a plein d'autres articles derrière, mais que j'ai mis en secondaire.
AEF Info, l'association April juge encourageant le plan de soutien aux logiciels libres dans les administrations, un article de la rédaction.
Et donc c'était le sujet de notre décryptualité de la semaine dernière. Il y a eu des bonnes choses qui ont été déclarées il n'y a pas longtemps par une ministre. Et donc effectivement, il faut encourager, ça va dans le bon sens. On est plutôt content, même si on n'est pas non plus né avec la dernière pluie et on sait que ça n'a pas forcément donné grand-chose. Mais on espère, on croise les doigts.
Ça donnera peut-être quelque chose, mais ça ne changera pas la face du monde, disons. En tout cas, c'est c'est un pas très intéressant, pas dans un contexte où il n'y a pas grand-chose habituellement. Voilà.
30 millions d'euros promis pour développer le logiciel libre dans les administrations. Or, il y a un plan de 1,8 milliard d'euros qui a été prévu pour déployer et mettre en place du nuage européen français avec l'aide d'entreprises américaines.
ZDNet France, Bluemind, l'Inagora, la Cour de cassation casse un arrêt d'appel, un article de Thierry Noisette.
Moi là, je me casse la tête, je comprends pas. La Cour de cassation a défait ce que la Cour d'appel avait défait d'une cour que j'avais pas bien compris. T'as suivi, toi ?
Non, de très loin. C'est une affaire qui remonte à 10 ans. On en avait parlé lors de la décision de la cour d'appel, sachant que une des choses impressionnantes dans l'affaire, c'est que ça a jugé un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup de l'autre côté. Donc beaucoup de rebondissements dans cette affaire. Donc c'est une affaire où en fait c'est des sociétés qui sont dans le logiciel libre, mais le fond de l'affaire n'est que très partiellement lié au libre proprement dit. On va pas s'étendre sur le sujet. On en avait parlé la fois d'avant, mais disons que c'était quand même intéressant. Par rapport à cette question du droit, dans le logiciel libre, dans le principe du libre, il y a plusieurs niveaux, et c'est pour moi une des grandes forces du logiciel libre, ça part d'une philosophie, des principes de liberté, et après il y a du code, donc des gens qui vont effectivement produire du code, etc. Et entre les deux, il y a une couche juridique, qui sont les licences libres, qui définissent la façon dont vont s'appliquer les grands principes de la philosophie. Et après ça permet de faire tourner effectivement du logiciel, et c'est pour moi une force très importante du logiciel libre, c'est que il y a cette profondeur du mouvement qui va de l'idée des principes jusqu'au code.
Et c'est très fort, hein. Je crois qu'il y en a qui décrivent ça comme une sorte de prise de judo juridique. En gros, on réutilise le droit d'auteur pour aller un peu à l'encontre à l'origine, parce que le droit d'auteur c'est fait pour restreindre les usages d'une œuvre. Et avec le logiciel libre, largement, c'est le contraire. L'optique, c'est au contraire de libérer, de permettre de plus utiliser, de plus partager du code.
C'est ça. En vertu de son droit d'auteur, l'auteur de logiciel autorise les gens à faire plein de choses. Donc c'est très fort et la dimension juridique est très importante. Alors en fonction des pays, etc., c'est pas très variable, mais bien souvent les licences sont considérées comme des contrats. Et ça s'appuie également sur le droit d'auteur, donc voilà, sur des corpus juridiques. Il y a des juristes qui sont spécialisés là-dedans. Et comme on partage le code et qu'on peut ne pas respecter les licences, etc., il y a cette idée que la justice est là pour cadrer et qu'elle est là pour éviter les abus et les détournements et ce genre de choses. Et que donc, du coup, ça reste quelque chose de fort. Mais ces affaires, elles nous ont fait considérer que le droit, c'est long. L'affaire Bluemind, l'Inagora, même si c'est pas exactement des questions libres, c'est 10 ans. On avait parlé il y a quelques mois de l'affaire entre Entrouvert et Orange, là où on était vraiment dans des questions de libre.
Et c'était pas il y a quelques mois, hein. C'est plus récent que ça, hein. C'est pas très vieux.
C'est pas très vieux, mais c'est une affaire qui date d'il y a 9 ans, donc 9 ans de procédure pour avoir des décisions, et donc en fait c'est quand même très long tout ça.
Puis alors là, c'est que dalle encore, parce qu'aux États-Unis, il y a des procédures qui concernaient pas les licences à proprement parler, mais qui concernaient des choses liées, on va dire, connexes. C'était les brevets et des brevets sur des choses idiotes, genre des coins arrondis, qui ont pris la tête à plein de gens pendant des années, et qui avaient des enjeux, mais de l'ordre de milliards de dollars, qui ont eu des impacts sur les entreprises. C'est-à-dire que les stratégies planétaires de certaines entreprises ont pris des tournants à cause de ces procédures-là.
Et puis il y a eu plein d'affaires, toujours aux États-Unis, des histoires sur des utilisations d'API ou de codes qui étaient considérés comme libres ou pas, qui étaient en réalité extrêmement simples, mais en fonction des juges, un coup ils disaient que ça tombait dedans, un coup ils disaient que non. Donc on voit que c'est à la fois peu sûr, que c'est très long. Alors, faut se dire, 10 ans de procédure, c'est quand même, bon, d'une part, entre le préjudice et le moment où on a une décision, en informatique, 10 ans, c'est extrêmement long, il s'est passé énormément de choses. Et il faut avoir l'argent aussi pour faire ça. Quand on est un particulier, faut bien gagner sa vie pour se payer des procès. Et puis même quand on est une PME, ça dépend de la taille de la PME, mais ça prend du temps. Et quand on est une petite boîte, on n'a pas nécessairement des gens pour gérer des dossiers de fonds comme ça.
Et puis 10 ans avec les enjeux qui sont derrière, c'est largement suffisant pour mettre la clé sous la porte.
Oui, oui. Alors effectivement, si sur l'instant on perd de l'argent instantanément et que ça dure, effectivement, ça peut couler la boîte. Et puis après, même si on n'est pas en situation de voir l'activité s'effondrer à cause de ça, bah, il faut sortir les sous. Et sur une PME, c'est pas des budgets complètement ridicules. Il faut avoir des gens qui gèrent ça, et c'est du temps, donc des petites boîtes, elles n'ont pas des ressources illimitées, quoi.
On peut faire remarquer, il y avait une personne qui s'était lancée dans des procédures qui ont pris du temps et un petit peu de moyens quand même, mine de rien. Tu te rappelles, hein ?
Bien, à l'April, il y a Laurent Costi qui, il y a des années de ça, avait essayé de se faire rembourser la licence Windows d'un ordinateur qu'il avait acheté dans le grand commerce.
On dirait un fou, on dirait c'est Astérix contre les Romains, quoi.
C'est ça, bah, Laurent, il avait fait ça par pure conviction. Hein. On estime que le prix de la licence, c'est environ 50 euros. Hein. Les prix sont secrets, donc on ne sait pas combien on paye les licences quand on achète un ordinateur. Tout le monde pense que c'est gratuit, mais c'est pas le cas. En théorie, c'était faisable. Laurent s'est lancé là-dedans pour montrer que c'était faisable, pour avoir une idée du prix des licences, etc. etc. Il y a passé je ne sais pas combien d'années.
Et il me semble qu'il avait utilisé des procédures hyper oui. travaillées. Hein. Il avait fait des copies d'écran de toutes les procédures d'installation où il montrait oui. bien ce qu'il faisait et qu'il n'acceptait pas la licence.
Oui, oui,
à l'époque,
tout à fait.
On pouvait
oui, oui.
accepter la licence à l'installation.
Et il avait tout préparé à l'avance et c'était vraiment avec cette volonté de pousser le système et de voilà juridiquement aller devant le truc en disant « je dois pouvoir me faire rembourser ». Et au bout de je sais plus combien d'années, je crois plus de 5 ans, il a fini par lâcher le morceau. C'est un moment où il a dit bah, « je fais que ça, ça va nulle part, ça me coûte de l'argent, ça me prend du temps ». J'ai une vie à côté, il y a un moment, il a lâché et on peut le comprendre.
Ouais, je crois que ça lui avait coûté quelques milliers d'euros, hein, parce qu'il y avait bien des avocats à un moment donné à faire venir pour aller aux procédures aux différentes instances.
Et tout ça pour une licence à 50 euros, quoi.
Oui.
Peut-être 100.
Et des principes, monsieur. C'est important, les principes, parfois.
Et oui, oui. La protection offerte par le juridique, elle est très relative pour ces questions de délai et de coûts et d'insécurité, parce que la justice, elle va dans un sens ou dans un autre, on n'est pas sûr, quoi.
Alors, moi, je te contredirais. Je dirais, les institutions, elles font du bon travail de temps en temps. Regarde le RGPD, magnifique outil qui a été mis entre les mains de plein d'associations et des consommateurs, qui protège, dans une certaine mesure, nos données privées. Je veux dire, voilà, il y a du positif, espèce de cynique pessimiste que
non,
tu es.
Non, mais il y a des choses qui vont dans le bon sens. Et de fait, ça force des gens qui, même s'ils le font pas extrêmement bien, c'est nettement mieux que ce qu'ils faisaient avant.
On pourrait s'attendre à ce que le RGPD soit un peu implémenté partout, notamment aux États-Unis, là, incessamment sous peu, je veux dire, c'est presque obligé.
C'est pas prêt d'y être, je pense. C'est l'articulation suivante, et c'est ça dont on voulait parler également, c'est que même si la loi est de notre côté, même si on a le temps, même si on a l'argent, la loi, ça se change, et en fait, on reste dans la légalité, mais il y a ce qu'on appelle le lobbying, dont on parle beaucoup, et le lobbying, il peut changer la loi, et quelque chose qui fonctionne juridiquement comme le logiciel libre peut du jour au lendemain se mettre à ne plus marcher du tout, juste parce que la loi a changé.
Effectivement, on a dû défendre le domaine du logiciel libre parce qu'il y avait un moyen de l'enfermer assez aisé, finalement, c'était les brevets logiciels. Et aux États-Unis, on le sait, ça a été utilisé devant des cours de justice et il y avait vraiment un gros, gros impact.
Il y a des dizaines et dizaines de milliards qui sont passés là-dedans.
Voilà, et, ouais. et on sait qu'en Europe, c'est théoriquement interdit d'avoir des brevets logiciels, mais que pratiquement, il y en avait des dizaines de milliers qui étaient enregistrés.
Ça remonte maintenant, c'est quoi ? Ça fait 15-20 ans, hein, je ne sais plus combien de temps. Mais il y a eu une grosse
années,
bataille,
oui.
Une grosse bataille sur la brevetabilité du logiciel en Europe, où les libristes et d'autres se sont mobilisés pour faire échouer cette décision. Parce que, par rapport au libre, même si on a des licences libres, ce qu'on expliquait, ce qu'on explique de longue date, dès lors qu'un logiciel pouvait être breveté, ça veut dire que l'idée même mise en place par le logiciel était protégée par un brevet. Et donc, après que le code soit libre ou pas, finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Parce que si toi, tu fais un code que tout le monde peut l'utiliser, que je dis d'accord, mais l'idée que tu implémentes est à moi, donc même si ton code est libre, l'idée est à moi, donc il faut me payer. Eh bien, de fait, c'était une façon de neutraliser le logiciel libre. Donc, cette bataille a été gagnée. Les États-Unis ont fini par faire marche arrière en se rendant compte qu'en fait, c'était complètement absurde et une perte de moyens.
Ils ont vaguement fait marche arrière. C'est-à-dire que la Cour suprême a commencé à se rendre compte que c'était un peu idiot.
Ils ont pas mal refroidi les ardeurs. Et après, je suppose qu'il reste encore pas mal de choses. Et même les grosses boîtes, hein, les GAFAM, après s'être fait des procès à coups de milliards et tout ça, ont fini par dire « Bon, allez, on va tout mettre nos brevets dans des fonds défensifs et arrêter de se foutre sur la gueule là-dessus, quoi. »
Parfois, on en a même parlé dans la revue de presse parce qu'on voyait venir des grosses boîtes Je sais plus si Microsoft et compagnie, bah, ils ont mis un petit peu au pot pour se défendre en commun avec les autres.
Alors Microsoft, je sais plus où ils en sont, mais s'ils l'ont fait, c'est vraiment été les derniers, hein, parce qu'ils continuent à breveter abondamment. Enfin, en tout cas, il y a encore un an ou deux, on avait lu des choses là-dessus. Il y a un autre exemple que j'ai en tête, c'est toujours aux États-Unis, la neutralité du net. Donc sujet aussi qui a fait débat chez nous, qui a été dégommé aux États-Unis sous la pression de lobby, etc. En disant, bah non, la neutralité du net, c'est pas intéressant pour le business, on peut enfermer les gens s'il n'y a pas d'internet neutre, donc si on les enferme, on peut en tirer plus de fric. Alors là, le logiciel libre n'est pas nécessairement directement impacté par la neutralité du net, mais on voit que bah, une législation peut changer radicalement la donne et interdire toute une série de choses, quoi, ou en tout cas les rendre matériellement impossibles.
On a vu qu'une entreprise comme Amazon, par exemple, elle a des moyens, elle les déploie, ces moyens, et bah, ils arrivent à intervenir au niveau des lois qui sont en train d'être faites. Ils ont des gars, des bons petits gars, qui sont assez efficaces de ce point de vue-là.
Tu avais remonté un article du Washington Post, donc toujours aux États-Unis, sur un lobbyiste. Donc ils font le portrait d'un lobbyiste qui a travaillé pour Amazon, qui a bossé avec Obama, etc. Donc un type qui a un carnet d'adresses monstrueux. Dans l'article, il disait que voilà, il a réussi à dégommer des lois.
Trois douzaines de lois en cours d'écriture dans 25 États.
Qui étaient des lois pour protéger les libertés informatiques.
Et la vie privée en général. Ça avait l'air d'être assez global, faudrait regarder après le détail. Mais oui.
Et donc on apprend qu'Amazon a, je suppose pour les États-Unis, un groupe de 250 personnes qui font que du lobbying. Et donc oui, il y a les moyens pour changer la loi et pour l'orienter, pour en faire ce que les gens veulent. Et donc l'argument en disant c'est la loi ou la loi nous protège, il est également limité par le fait que, avec suffisamment de poids et suffisamment d'influence, la loi peut changer et devenir totalement non favorable aux libertés des gens et au logiciel libre et à ce que nous, on trouve essentiel pour le bien commun.
Je te trouve dur, hein, et puis je te rappellerai, je suis sûr, tu leur poses la question à ces 250 personnes, je suis sûr qu'ils vont te dire qu'ils font ça pour le bien commun.
Oui, c'est ça, et c'est souvent l'argument qu'il y a, hein, et on dit, mais vous, l'April, vous faites aussi du lobbying, donc c'est chacun pour soi. Quand on parle de logiciel libre, on a la conviction que ça va dans l'intérêt collectif. Et je pense qu'on a des arguments assez forts pour ça, et on en parle toutes les semaines. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de surdescendre et qu'on me dise ce genre de choses, surtout à l'époque d'Adopi où ça discutait beaucoup. Et voilà, moi, c'est ce que je disais. Je dis, bah, moi, je suis pour l'intérêt collectif. Les autres en face peuvent éventuellement sortir des arguments, mais en général, ils sont très creux. Et quand tu les examines de près, ça tient jamais très très longtemps. En général, ils aiment pas du tout être exposés. Les lobbyistes aiment le secret. Il y a eu des choses, notamment à l'Assemblée nationale, où il a été demandé que soient tenus des registres sur les lobbyistes, etc. Ça a fait scandale parce que ces gens-là travaillent dans le secret. Je pense que voilà, un militant pour les libertés informatiques, voilà, qui connaît son sujet, dégomme sans difficulté sur le terrain de l'intérêt général un lobbyiste quelconque.
Rappelons, hein, c'est dans l'obscurité que le lobbying peut assez facilement basculer dans bah, la corruption, hein, tout simplement.
Bah, il le cherche, je veux dire, il cherche l'obscurité absolument, donc voilà, même sans être sur de la corruption pure et dure, échange de valises de billets, même si je ne doute pas que ça existe, le simple fait de dire « fais-moi une loi sur mesure », c'est déjà problématique, dès lors qu'il n'y a pas de débat, quoi.
Et c'est gênant quand c'est en plus les plus grosses entreprises au monde qui aient jamais existé, hein, des trilliards de dollars qui sont contrôlés par ces grosses boîtes, les GAFAM, hein, pour les nommer. C'est embêtant parce qu'elles ont un impact phénoménal et elles ont une force de frappe considérable. Donc, bah, on a l'April pour se défendre. C'est bien, mais c'est...
C'est petit par rapport au reste, mais je pense aussi que c'est aussi la preuve qu'on est dans le vrai. C'est-à-dire que des associations comme l'April et d'autres qui ont des moyens dérisoires par rapport à ce qu'il y a en face arrivent malgré tout à faire bouger les choses. Et ce serait pas le cas si, effectivement, on était juste en train de défendre notre propre intérêt. Pour moi, ça démontre l'importance d'avoir une démarche politique, donc avec tout le travail institutionnel que fait l'April. Parce qu'on ne peut pas juste dire « la loi est avec nous ». Et ça démontre aussi que bah, les puissants sont puissants parce qu'eux arrivent à organiser des moyens avec de l'argent, des gens qui payent, etc. Et qu'en face, les gens ne sont pas très organisés. C'est un peu chacun dans son coin. Et bah, c'est comme ça qu'on se fait avoir, au final.
Bon, bah, sur ces bonnes paroles, hein, je te propose d'adhérer à l'April.
Bah, je suis déjà membre.
Bon, bah voilà. Allez, on reparle de tout ça la semaine prochaine.
Ouais, salut.
À la semaine prochaine.